Les colloques du Collège de France.
Je vais maintenant vous présenter notre intervenant suivant de l'après-midi, Jean-Yves Larouturou, qui a un parcours original. Il est ancien haut fonctionnaire, il a été ensuite numéro 2 dans des grands groupes internationaux, France Télécom devenu Orange, puis Suez. Il a exercé, ou il exerce encore, des mandats au sein d'institutions culturelles. Il a notamment présidé le Théâtre National de l'Opéra Comique pendant 7 ans. Et il a aussi été producteur d'émissions hebdomadaires à France Musique. Pour ceux d'entre vous qui ont le goût de la musique, vous connaissez peut-être ces émissions « Mazette, quelle musique ?» ou « L'échappée belle ». Et voilà, donc il est multicarte. Et je lui donne la parole pour son exposé. Quelques observations comparatives sur la gouvernance de l'entreprise artistique hier et aujourd'hui. Un titre qui commence modestement, mais qui aura certainement beaucoup d'ambition.
Bonjour, merci beaucoup Pierre-Michel. Je ne vais pas m'attarder à répondre à ce que tu viens de dire, évidemment, ni à traiter la question de l'incongruité ou de l'illégitimité de ma présence ici aujourd'hui. Peu importe, d'une certaine façon. Quelques observations comparatives sur la gouvernance de l'entreprise artistique hier et aujourd'hui. Je tremble à l'idée de prendre la parole après Thomas Paris, puisque certains des aspects qu'il a abordés brillamment et de manière très structurée vont être effleurés dans cette présentation. Voilà. L'entreprise artistique, c'est-à-dire le dessin que une pensée artistique va mettre à exécution, peut avoir deux sens. Ça peut être tout simplement le dessin d'un artiste qui met à exécution en y consacrant des ressources, du temps, des ressources matérielles et immatérielles. Mais ça peut être aussi la structure sous-jacente, parfois la structure juridique aussi, l'entité juridique, qui réunit des personnes, qui réunit de la main-d'œuvre, des capitaux divers, en vue de produire des œuvres d'art ou de les diffuser. Et ces deux termes recouvrent des réalités qui ne sont pas exclusives l'une de l'autre, mais qui sont extrêmement différentes, de fait. En 1er mai 1937, Picasso, dans son atelier de la rue des Grands Augustins à Paris, entreprend de créer une peinture, c'est Guernica. Il vient de voir les photographies dans la presse de ce qui a été une horreur absolue 4 jours auparavant, le bombardement par les aviations allemandes et italiennes à la demande des nationalistes espagnols de cette ville basque. Et il entreprend, donc il se lance, entreprise artistique, à créer cette grande toile monumentale, 3,50 m sur 8 mètres. C'est une entreprise artistique parce que le dessin est évidemment très clair. Il y consacre ses ressources. En 5 semaines, l'œuvre est achevée, le 4 juin 1937, 40 jours seulement après le massacre de Guernica. C'est une entreprise qui est essentiellement solidaire, mais à deux points près. Le premier, c'est qu'il n'est pas seul dans l'atelier. Il y a Dora Maar, qui est alors sa compagne, surtout qui est une photographe. Et les clichés qu'elle prend jour après jour vont être très très utiles, Picasso le dit lui-même, pour l'élaboration, pour la construction, pour la finalisation de l'œuvre. Et puis, deuxième élément qui n'est pas complètement indifférent, il faut bien vivre, le gouvernement espagnol, le gouvernement républicain espagnol avait commandé à Picasso une peinture pour le pavillon espagnol de l'exposition de 1937 à Paris, exposition internationale au pied du Trocadéro. Et non sans réticence, Picasso avait accepté, sans dessein du tout ce qu'il en était, donc c'est in extremis qu'il va remplir, satisfaire la commande qu'il avait acceptée en 1937. Deuxième type de structure qui répond à ce qu'est le terme d'entreprise artistique, c'est celui d'une entreprise artistique, d'une structure importante, gouvernée, gérée, comme vient de le dire Thomas Paris. Et je pense évidemment à l'atelier de Rubens qui, pendant 40 ans, de 1610 à 1640, c'est-à-dire à la mort de Rubens, va être une véritable entreprise à Anvers, une entreprise florissante, très structurée, des dizaines de collaborateurs, des milliers de toiles peintes, de la sculpture aussi un peu, et diffusées à travers l'Europe entière. Et encore, les chiffres qui sont donnés ne tiennent pas compte de tout ce qui a brûlé, par exemple, dans le grand incendie provoqué par le maréchal de Villeroy à Bruxelles en 1695, ou de tout ce qui était éphémère, parce que c'était des grands décors pour les joyeuses entrées des gouvernants dans les grandes villes des Pays-Bas méridionaux. J'y reviendrai. Je ne montrerai rien pour parler Taylor Swift, parce que vous êtes tous familiers non seulement de l'image mais du son. Je dirais simplement que c'est un autre exemple bien plus récent, évidemment, contemporain, actuel et qui n'a pas fini de se développer, d'une grande entreprise avec un groupe de sociétés spécialisées, l'une dans le droit, la gestion des droits et des retombées, l'autre dans l'organisation de grandes tournées, une autre dans la communication, la maîtrise marketing, l'innovation, etc., la fidélisation, avec aussi une vraie politique de ressources humaines et de rémunération du corps social, il faut le signaler. Une grande entreprise dont le maître étalon est très rapidement devenu la centaine de milliers voire le milliard de millions, voire le milliard, qu'il s'agisse du nombre de streams en une semaine, qu'il s'agisse des bénéfices que donne une grande tournée internationale sur les 5 continents, etc. Voilà. Alors, comme vieillard que j'assume être, j'avoue que je suis plus impressionné par la réussite de l'entreprise sur différents terrains, artistiques autant que sociétal, effectivement, sur l'impact économique et humain qu'elle a à travers le monde, sur le renouvellement incessant d'ailleurs de cette machine, à travers, par exemple, des registres affectifs ou des registres musicaux. On est passé d'une musique de country à de la pop, maintenant des influences de soul, etc. Je suis plus impressionné que par l'analyse musicale stricto sensu. On est tous stupéfaits quand tout d'un coup on entend une petite modulation harmonique. Le discours n'est pas très sophistiqué de ce point de vue-là. Mais peu importe, c'est un autre exemple du deuxième type d'entreprise artistique, la grande entreprise artistique, et pas uniquement l'aventure individuelle. Alors, qu'est-ce que la gouvernance d'une entreprise de manière générale ? Bien, quelle que soit l'activité de production, agricole, industrielle, commerciale, de services, de recherche et de recherche et développement, que sais-je encore, toutes ces entreprises sont dans des cadres structurés, plus ou moins contraignants, d'ailleurs, suivant les pays, suivant les époques, de l'entrepreneur individuel jusqu'au grand groupe multinational. Et ces règles fixent notamment la façon dont l'entreprise est gouvernée, lato sensu, c'est-à-dire la façon dont sont prises les décisions, dont sont gérées en interne, et toute l'interaction entre les organes de direction et l'ensemble des parties prenantes, comme on dit, les stakeholders, dans le bon franglais qu'on utilise de plus en plus ici, stakeholders internes, parties prenantes internes ou parties prenantes externes. Donc ce sont de très très nombreux sujets et je ne décevrai personne en disant que nous n'allons pas tous les aborder ou même les effleurer. C'est à la fois la répartition des pouvoirs et des responsabilités de direction, de contrôle aussi, les relations avec les propriétaires de l'entreprise, les modalités de nomination, de rémunération aussi des dirigeants, les modalités d'évaluation de la performance, qu'est-ce qu'il faut que je cite encore, toutes les modalités d'interaction avec les parties prenantes, je l'ai dit, ce sont à la fois les hommes et les femmes qui font le capital humain de l'entreprise, leurs représentants, ce sont aussi les actionnaires, c'est aussi souvent la puissance publique, qu'elle soit actionnaire ou régulatrice, et c'est aussi les clients, les marchés, les multiples autorités réglementaires qui ont leur mot à dire sur la façon dont l'entreprise est gouvernée et en rend compte. Ce sont des institutions spécifiques, spécialisées, ce sont tous les financeurs, y compris d'ailleurs les mécènes, les analystes et les médias qui scrutent le fonctionnement et la gouvernance des grands groupes notamment, et puis le public bien sûr. J'arrête là une énumération très, très laborieuse de fait, mais toutes ces matières, effectivement, Pierre-Michel l'a dit, j'ai eu à les connaître et à les pratiquer comme fonctionnaire au titre de l'État actionnaire, comme dirigeant numéro 2, directeur général adjoint de grands groupes multinationaux, également comme administrateur et même comme président de certaines entités porteuses d'utilité publique, notamment dans le secteur culturel, mais pas seulement. Et puis je m'en suis rendu compte a posteriori, comme animateur de radio, producteur de radio, salarié de Radio France, je me suis trouvé classifié par la Sécurité sociale comme intermittent du spectacle. Et donc, ça n'est qu'à ces titres divers que je peux dire quelque chose à ce micro et dans ce lieu. Il faut être un peu audacieux pour le faire. Mais j'ai en tête effectivement la façon dont la gouvernance de l'entreprise de manière générale, est encadré par des règles législatives, réglementaires, mais aussi ce que l'on appelle de la soft law, du droit mou, en quelque sorte, c'est-à-dire des codes moins contraignants, par exemple le code AFEP-MEDEF pour les grandes entreprises cotées et pour d'autres entreprises, et puis par des règles et procédures que l'entreprise elle-même crée. Soit parce qu'elle y est obligée, par exemple un règlement intérieur, soit parce qu'elle trouve, sans les rendre publics, ou au contraire en les mettant en avant, parce que c'est bien, ça fait bien, qu'il faut s'imposer telle et telle règle, tel et tel mode de fonctionnement. Alors, je vais décevoir ceux qui, ayant vu mon curriculum vitae, mon parcours académique, s'attendent à un plan structuré, soit en trois parties comme on les fait à Sciences Po à l'ENA, soit en deux parties comme un bon ingénieur sait les faire de temps quatre mouvements. Il n'y a pas de plan. Voilà, il y a une liste de sujets qui vont être abordés. En quelque sorte, qu'est-ce que on peut dire de l'entreprise artistique et de sa gouvernance, lato sensu, et en quoi celle-ci, qu'il s'agisse de l'entreprise d'un génie solitaire ou presque, ou qu'il s'agisse d'un grand groupe de sociétés, éventuellement multinationales, comment sa gouvernance peut aider à ce que le dessin artistique sous-jacent soit tenu, soit poursuivi et se développe. Donc c'est un vaste sujet, effectivement. Je ne vais pas donner ce que je ne suis pas capable de faire, c'est-à-dire que ce ne sera pas un exposé de sociologie bien étayé par des enquêtes, des analyses sérieuses de données multiples, mais je prends le risque d'aller de l'avant, j'espère que vous me suivrez, donc dans cette espèce d'excursion. Parmi de multiples, il n'y a que des cas, Thomas Paris l'a dit tout à l'heure, il n'y a que des cas, c'est très vrai, à travers un certain nombre de cas, à travers le temps et un peu l'espace, et en donnant quelques observations comparatives simplement, voilà. Un intermède en quelque sorte, à l'heure où beaucoup pensent que c'est le moment de s'endormir tranquillement dans une bienheureuse sieste, ça ne sera qu'un intermède comme celle qui farcissent les comédies des deux Baptiste, par exemple, au XVIIe siècle, ou les pièces de Kabuki à la même époque au Japon. Je reviens tout de suite à l'atelier de Pietro Paolo Rubens à Anvers de 1610 à 1640. C'est une extraordinaire machine de production, je l'ai dit, des milliers de toiles à destination de commanditaires à travers toute l'Europe. La littérature est abondante, les expositions sont nombreuses aussi, et je me réfère notamment à tous les catalogues très savants qui ont pu être publiés en marge d'expositions magnifiques d'ailleurs à Bruxelles, à Londres, à Madrid, au Louvre-Lens, etc. Qu'est-ce que l'on sait? Nobody knows par définition. Il n'y a pas de rapport d'activité annuelle bien charpenté, exhaustif, mais en revanche il y a beaucoup de documents, des lettres, des recommandations, des documents comptables, des documents commerciaux, des inventaires très détaillés, notamment celui qui a été fait au moment de la mort de l'épouse, de la première épouse, Isabelle Brandt de Rubens en 1626, également au moment de la clôture de l'atelier par la mort de Rubens lui-même en 1640. Et puis, il y a eu beaucoup de commentaires et d'enquêtes du vivant de Rubens lui-même, beaucoup d'éléments parce que comprendre comment cette machine extraordinaire, bien supérieure en termes de taille, d'importance et de capacité de production à tout ce qui avait été fait dans le passé, des ateliers, il y en a toujours eu, chez les grands peintres ici et ailleurs, mais tout ça a passionné beaucoup de monde dès le vivant de Rubens et au-delà, donc on sait pas mal de choses finalement. Alors c'est d'abord, qu'est-ce que l'atelier de Rubens, comment est-ce qu'il est gouverné? C'est d'abord un lieu. C'est un lieu, puisque, il faut rappeler la chronologie rapidement, fin 1608, Rubens quitte Rome, revient à Anvers. Désormais d'ailleurs, il va signer Pietro Paolo Rubens, je ne me trompe pas, il se veut italien d'une certaine façon. En septembre 1609, l'année suivante, donc, il est nommé peintre officiel de la cour des archiducs souverains des Pays-Bas à Bruxelles. Il obtient d'ailleurs la permission de que son atelier soit à Anvers et non pas à Bruxelles. Il achète une grande maison traditionnelle flamande et il la transforme complètement pour en faire une espèce de palais italien, de palais romain, mais aussi pour y construire, on le voit en partie sur cette estampe, un grand atelier, c'est-à-dire c'est une très longue aile sur trois étages, et avec des espaces, des volumes considérables pour l'époque, soit orientés au nord pour avoir une lumière constante, soit avec de la lumière zénitale. Et l'atelier aurait pu, parce qu'il y a encore des controverses, aurait pu comprendre jusqu'à 200 collaborateurs, tous métiers confondus, pas uniquement les métiers artistiques, peintre, sculpteur, graveur, architecte, mais aussi tout le back-office de l'activité artistique. C'est une organisation du travail artistique, d'abord, évidemment, assez sophistiquée, pour répondre à des commandes, toutes sortes de commandes. Il n'y a que lorsque Rubens s'est soumis à des commandes absolument extraordinaires, par exemple, en très peu de temps, organiser dans la ville d'Anvers, sous la forme d'arcs de triomphe, de panneaux, de peintures, de sculptures, allégoriques ou non, tout un décor pour l'arrivée du cardinal infant Ferdinand en 1635. À ce moment-là, il sous-traite une partie de cela, mais autrement, l'atelier est organisé pour prendre en charge, par exemple, les commandes de la reine Marie Médicis sur une quarantaine de tableaux, mettant sa vie et celle de Henri IV en lumière pour l'éternité des temps. Comme les ateliers de production industrielle, il y a une division du travail qui est assez impressionnante, qui se raffine de plus en plus, qui se démultiplie. Il y a les tâches de préparation en amont de la peinture, il y a toutes les tâches liées à la peinture elle-même, et puis certains vont se spécialiser dans le fait de faire les fonds, de faire les drapés, les plus habiles feront les parties des mains ou des visages, d'autres seront mobilisés pour faire les paysages, les arrière-fonds, ou bien pour au contraire traiter les personnages secondaires, y compris les animaux. Mais la division de ce travail est absolument spectaculaire. Elle comprend aussi la collaboration d'éléments extérieurs ou internes. On pense par exemple à celui que Rubens décrit comme son meilleur disciple, qui est le génial Van Dyck, qui passe 4 années pleines comme assistant, comme compagnon de Rubens, sans signer quoi que ce soit. Et puis il y a aussi des collaborations qui font, par exemple, il y a une trentaine de toiles qui sont co-signées très officiellement par Yann Bruegel et par Rubens. Donc l'atelier n'est pas clos, c'est une force d'attraction considérable. D'ailleurs, Rubens explique qu'il passe son temps à refuser des centaines de candidatures. Voilà, l'activité n'est pas car artistique, puisqu'elle prend en charge tout, c'est-à-dire l'organisation efficace de la logistique, logistique pour le matériel qui rentre, logistique pour les toiles qu'il faut parfois envoyer jusqu'au fin fond de l'Espagne. Il y a tout le travail de RH, comme on dit, de ressources humaines, le recrutement des meilleurs candidats. Il y a également tout ce que concerne la gestion administrative et financière, celle des achats, des ventes, etc. etc. Je ne vais pas entrer dans le détail. On voit d'ailleurs ce qui est peut-être la numéro 2 réelle, au moins jusqu'à sa mort, évidemment, de l'entreprise Atelier Rubens Anvers, qui est Isabella Brandt, qu'il peint là, sous la tonnelle de chèvrefeuille du jardin, du palais Rubens, de la Rubens-Royce, et qui va être effectivement très partie prenante de la gouvernance de cette cité. Le marketing, la communication, le savoir, le faire savoir à travers toute l'Europe, notamment le fait de cibler certaines classes émergentes de connaisseurs, donc d'acheteurs, la segmentation des marchés. Tout d'un coup, Rubens décide d'ouvrir un nouveau segment de marché parce qu'il le sent. Ce sont les reproductions en petit format des grandes œuvres. Et on voit que dans les documents que l'on a, y compris comptables, cela occupe de plus en plus d'apprentis pour ouvrir ce segment de marché qui marche très bien d'ailleurs. Voilà. Alors, ce sont aussi de très grandes toiles. Ça devrait apparaître, voilà. Là, on a 2 toiles différentes, une qui est plutôt une esquisse assez approfondie, l'autre qui est une réalisation qui n'est pas la même exactement. Dans la série des tableaux commandés par Marie de Médicis, c'est l'entrée triomphale d'Henri IV à Paris. On voit que cela génère, ou j'y trouve le témoignage plus exactement, de la façon dont Rubens gère les crises. C'est important quand on dirige une telle entreprise de savoir gérer les crises. C'est même un talent absolument indispensable d'avoir quelqu'un qui sache gérer une crise dans une grande entreprise. Et la crise arrive très vite, parce que très vite, le fait d'avoir des apprentis qui font telle ou telle partie de la toile fait que on sait, et de plus en plus on voit, que tout n'est pas de la main du maître. Alors, dans un premier temps, Rubens proteste en prétendant qu'il a la main sur partout, sur tout. Et puis, il comprend qu'il y a une crise et il trouve finalement les bonnes réponses assez vite et c'est très impressionnant en termes de gestion de crise, si j'ose dire. Premièrement, il resserre considérablement la spécialisation et les dispositifs de qualité et d'homogénéité artistique des productions. Deuxièmement, il rassure les inquiets. Il explique que, sauf pour les simples copies, c'est lui toujours qui fixe le dessin de l'œuvre, qui réalise les esquisses, qui supervise la réalisation, prend parfois le pinceau sur telle ou telle partie, et puis que c'est lui qui donne la touche finale, la rectification des couleurs, des jeux de lumière, des expressions, parce que c'est très important, il ne faut pas se tromper, écrit-il. Troisième idée géniale, je crois, il ouvre l'atelier aux visiteurs qui le souhaitent. Il n'y a pas de mystère, venez voir comment ça se passe, en quelque sorte. Et il cesse Baudis, ses visiteurs, d'assister à la façon dont, effectivement, Rubens met de temps en temps la main à la pâte, ou le pinceau sur la toile, plus exactement, et effectivement, arrive à finaliser l'œuvre par le sieur Rubens lui-même, comme l'écrit un de ses visiteurs, Esbody. Quatrième réponse, c'est le marketing, et là c'est encore plus extraordinaire. Il met en place une tarification graduée, voyant que le sujet existe, qu'il ne va pas le cacher, il le révèle. Et donc, selon la part que lui-même, ses disciples les plus sophistiqués, à nous dire, ou les apprentis ont eu dans l'œuvre, dans la peinture réalisée, eh bien, il établit une graduation de la rémunération, qui va des œuvres qu'il a faites lui-même en totalité ou quasiment, à ce qui n'est qu'une copie ou la réalisation d'une esquisse par des assistants divers. Donc, la gestion de crise et la gestion marketing est très sophistiquée, je crois. Et cette entreprise est donc très performante, et on le voit parce que, effectivement, il y a Rubens n'est pas qu'un artiste, sculpteur, peintre, etc., architecte, c'est aussi un diplomate dans la même période d'ailleurs. Il court parce que les souverains lui demandent à travers l'Europe pour porter des messages, faire des négociations secrètes, mais il est aussi un vrai artiste dans le sens où son atelier, cette machine de production, eh bien tout simplement correspond à l'épanouissement d'un dessin artistique et d'une patte, d'une façon de traiter la peinture elle-même, d'un art, d'une esthétique picturale, de fulgurance, d'impulsion, d'improvisation plus ou moins réelle en fait, d'une touche qui est fulgurante et qui saisit. Et c'est ça la patte de l'ensemble des toiles qui sortent de cet atelier. Alors, et tout ça se fait avec une situation financière qui est éblouissante. Le peu que l'on sait, c'est que le fonds de roulement, pour parler de manière un peu technique, est toujours extraordinaire. La trésorerie est toujours surabondante, ce qui veut dire qu'il y a un travail pour aller réduire les dépenses, les retarder, et surtout pour aller avancer de manière plus précoce possible toutes les rentrées d'argent, dont beaucoup d'entreprises pourraient être tout à fait envieuses. Autre type de gouvernance, donc ça c'est une gouvernance, je veux dire, très moderne d'un atelier pour une activité absolument florissante. Autre type de gouvernance, c'est celle que je me suis permis d'appeler la gouvernance d'entreprise artistique par le livre. Je prends trois exemples en espérant être pas trop mystérieux. D'abord, le Magnus Liber, le Liber Magnus Organi de l'école Notre-Dame. C'est l'école musicale, notamment, qui existe en même temps que la période de construction, presque d'achèvement, de 1163 à 1245, de la nouvelle cathédrale. Et les chantres et les chanoines décident effectivement qu'il va falloir créer une nouvelle musique qui va retentir sur ces nouvelles voûtes gothiques. Et cette musique va être très impressionnante et va imprimer, comme disent les jeunes maintenant, dans l'ensemble de l'Europe musicale pour au moins un siècle. Et la décision de gouvernance prise, c'est de créer non pas un recueil comme ça, mais de décider ce qui va être dans un livre, qui sert aussi à l'office bien sûr, qui est le grand livre donc, dans lequel on va voir génération après génération apparaître les œuvres. Elles deviennent des œuvres artistiques correspondant à un dessin parce qu'elles entrent dans le livre, dans le Liber Magnus Organi. Donc une espèce de gouvernance, de choix de l'entreprise artistique à travers l'entrée dans un livre. On y voit apparaître pour la première fois quasiment deux compositeurs que l'on connaît, dont on connaît les œuvres, dont on connaît un peu les histoires. C'est le Magister Perotinus Magnus, c'est-à-dire le maître Petit Pierre le Grand, ce qui est assez amusant évidemment, et puis une génération avant, le Magister Leoninus, et qui savent, sont eux-mêmes ce qu'on fait de mieux à l'époque pour créer pour l'un les organums à deux voix, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est, mais bon, c'est facile à trouver, à comprendre, ou bien les organums à trois ou quatre voix, ce qui est une prouesse dont l'Europe ne se remet pas un siècle après. Plus spectaculaire encore, c'est le cas de Guillaume de Machaut. Guillaume de Machaut, sans doute le plus grand écrivain et compositeur, en tout cas compositeur du XIIIe siècle. Il se promène à travers toute l'Europe à la suite de Jean de Luxembourg, et sa réputation est immense. Et ce n'est qu'en 1371, il vient de devenir septuagénaire, qu'il entreprend quelque chose qui est totalement inouï, sans précédent et combien l'on fait par la suite, il fait le recueil complet, il fait réunir l'ensemble de ses œuvres, exhaustif. Et il écrit et compose en 1371 ce qu'il appelle le prologue, il est temps, si j'ose dire, mais ce prologue qui est l'œuvre qui vient couronner l'ensemble de l'œuvre et qui donne en quelque sorte la raison d'être, le sens de ce dessin artistique qui couvre des dizaines de milliers de vers, même des centaines de milliers de vers, et au moins 140 partitions. Et il le dit clairement, il célèbre deux sources d'inspiration, la nature et l'amour. La nature qui lui a donné trois enfants, sens qui tient l'esprit informé, rhétorique qui enseigne l'art de construire, et musique qui, partout où elle est, joie y porte, les déconforte et réconforte, et née seulement de l'ouïr, elle fait les gens réjouir. Je ne sais pas si on a écrit des choses plus magnifiquement depuis. Voilà. Donc, la gouvernance passe par ce livre considérable, et je ne sais pas quel est le compositeur qui a su comme ça faire une telle œuvre et lui donner un sens par un prologue composé a posteriori. Je crois qu'il n'en existe pas. Et c'est inouï parce que, par exemple, un siècle après, Guillaume Dufay, le plus grand musicien de son temps aussi, celui à qui on confie, par exemple, la musique pour l'inauguration du Dôme, ce qui est un événement considérable, du Dôme de Brunelleschi à Florence, eh bien, son œuvre est dispersée partout. Partout. Il n'y a aucun recueil qui permette de la connaître et de la connaître entièrement. Troisième exemple, c'est le Codex Squarcialupi, qui vient juste après Machaut en quelque sorte, qui est conservé à la Laurentine à Florence. Il est inachevé malheureusement, mais ça n'est pas un recueil comme ça de pièces sympathiques qui ont du succès, etc. C'est un recueil très pensé, c'est un livre en fait. Il entre de manière très mesurée pour la place que l'on donne à chaque compositeur, les œuvres qui sont les grandes œuvres d'un style qui a vécu 40 ans, absolument sublime, qui est l'art subtilior de l'Italie du Nord. De la musique vraiment d'une beauté stupéfiante. Et donc, chaque compositeur a tant de pages. Il y en a un, par exemple, qui est Paolo da Firenze, Paul de Florence, en quelque sorte, grand maître, mais on a uniquement la première page, vous allez la voir, des 16 folios. Voilà, c'est ce qui est à droite. Donc, tous les folios commencent pour la partie d'un compositeur par une luminure, on voit par exemple, qui donne le portrait du compositeur. Par exemple, on voit là le portrait de Francesco Landini avec l'organetto, le petit orgue qui est posé sur son genou. Il était aveugle, on s'en aperçoit si on regarde bien. Et à côté, on a la première page, donc une enluminure magnifique, et ensuite 16 feuilles de papier réglé vides. C'est la place que l'on a gardée au principal successeur de Francesco Landini. C'est le bénédictin Paolo da Firenze que l'on voit dans sa robe bénédictine en haut. Donc, ça n'est pas une, c'est une œuvre qui est très pensée initialement, qui n'est pas complètement achevée, mais qui est le dessin artistique de dire voilà qu'est-ce que c'est l'art subtilior. Voilà qu'est-ce que c'est le dessin artistique d'un certain nombre de compositeurs, une douzaine, qui ont créé un art complètement efflorescent, unique, qui n'a pas de descendance. Et donc, en quelque sorte, la gouvernance de l'entreprise artistique, ici multiple, est faite par le livre. Alors, nous revenons dans un atelier, et cet atelier, c'est celui de Jean-Sébastien Bach à Leipzig. Donc, on passe d'Anvers à Thuringe, et on passe du XVIe siècle à la deuxième moitié de la vie de Jean-Sébastien Bach, les années qu'il passe à Leipzig. Alors, là, c'est une machine qui n'a pas du tout la grande beauté esthétique de la machine d'Anvers. Pourquoi ? Ce sont des tâches écrasantes. Le directeur musicus est cantor, pour utiliser les termes de Leipzig, et donc le directeur des musiques de la ville. Il doit, non pas chaque semaine, comme on lit partout, mais bien plus souvent que cela, parce qu'il n'y a pas que les dimanches où on chante des cantates dans une des quatre églises dans toutes les églises, d'ailleurs dans les quatre églises et souvent celles de l'université de Leipzig. Il faut les faire aussi pour les fêtes de Noël, qu'on fête trois fois, celles de Pâques qu'on fête trois fois, la Pentecôte qu'on fête trois fois, et puis toutes les autres occasions de fêtes qui ne tombent pas forcément le dimanche, la Saint-Jean-Baptiste d'été, le Nouvel An, la Visitation, etc. Je ne vais pas citer tout, l'Ascension, etc. Et puis il y a les grandes occasions, par exemple, l'élection du conseil municipal tous les lundis après la Saint-Barthélemy, fin août, il y a une grande cantate qui est donnée. Donc ça n'est pas 50 cantates, c'est presque une centaine de cantates qu'il faut élaborer dans un temps extrêmement court. Et élaborer une cantate, ça veut dire quoi ? Voir le prédicateur pour se mettre à peu près d'accord sur ce qu'on va raconter en musique ou ailleurs, trouver un livret qui corresponde à ça ou le fabriquer, composer de la musique et ou prendre de la musique existante et l'adapter, après avoir vérifié quels étaient les interprètes que l'on a à sa disposition pour le dimanche suivant ou pour la fête de la Saint-Jean. Et ils sont plus ou moins bons, plus ou moins disponibles, plus ou moins virtuoses. Ensuite, il faut superviser les copies des partitions, dans un temps où ça se fait à la main, à l'encre, et puis ensuite les répétitions, enfin il faut l'exécuter, et ça n'est qu'une partie de ce qu'on attend, parce que le directeur de la musique à Leipzig est aussi chargé de superviser les musiques municipales, celles des sonneries à l'hôtel de ville, celles des cérémonies civiles par exemple, c'est absolument écrasant. Mais ça ne suffit pas, il est aussi en charge de la direction dans tout ce que ça peut avoir d'exaltant et de passionnant, mais aussi de misérable à certains moments, d'un établissement scolaire avec des jeunes plus ou moins fringants, des professeurs plus ou moins allants, etc. Voilà. Et donc, il en a la charge, y compris morale. Il a aussi la charge de ses propres activités, car il continue à avoir des élèves privés, il est appelé pour des expertises d'orgue, il est appelé à la cour de Dresde, etc. Donc, un labeur qui est immense pour une production qui est immense aussi. Ce sont des cycles annuels de cantates considérables. Il faut écrire aussi une passion d'une bonne heure et demie ou deux heures pour le Vendredi Saint ou le Jeudi Saint, etc., etc. Et sans avoir une organisation vraiment bien structurée, contrairement à Rubens à Anvers. Cela repose sur quoi ? Sur l'école, à condition d'avoir des bons musiciens, des bons copieurs, des bons interprètes. Ça repose sur la relation avec le pasteur qui va faire le sermon, elle est plus ou moins cruciale, cordiale, etc. Ça repose aussi à la façon dont on peut mobiliser tous les gens qui vivent au domicile, c'est-à-dire la famille, les enfants qui sont un peu grands et capables d'écrire de la musique, Anna Magdalena Bach, qui est un peu l'Isabelle Brandt de Bach, tous ceux qui sont de passage, soit occasionnellement, soit durablement. Et puis on fait aussi, parce que quand même ça fait plaisir, de la house music, de la musique, de la musique domestique. Voilà. Et puis il y a les activités extérieures que l'on va développer parce qu'on y a du plaisir sans savoir comment on va arriver à les concilier avec les activités obligées. Par exemple, on se lance avec le Collegium Musicum dans des concerts au café de Zimmermann, avec des prestations musicales de haut niveau, deux fois par semaine, parfois dans le jardin d'ailleurs, voilà. Tout ça se fait donc sans avoir de structure, mais en étant obligé, c'est ce que j'appelle la machine Bach, de produire, de délivrer, et à travers cette machine, non seulement de satisfaire à des obligations, si j'ose dire administratives, mais également de défendre, de déployer un dessin artistique. Ce sont dans les cycles de cantates, dans les passions, dans les œuvres pour orgue, que Bach continue, pendant cette deuxième partie de sa vie, à déployer ce qu'il veut faire du point de vue artistique. Et tout ça se fait dans un environnement institutionnel qui ne facilite pas les choses. Les biographes de Bach insistent tous sur 15 cas de tension extrême entre les autorités et Bach, et en déduisent que c'était l'enfer en permanence, 15 cas sur 27 années, c'est pas forcément probant. Il n'en reste pas moins que Bach n'est pas facile, et les autorités qui ne sont pas faciles, elles lui ont fait signer un engagement qu'il allait faire de la bonne musique d'église et pas de la musique d'opéra, et qu'ils y veilleraient et qu'ils pourraient être sanctionnés pour ça. Eh bien, toutes ces interactions sont parfois très difficiles. La chronique, par exemple, des 5 versions successives de la Passion selon Saint-Jean en est un témoignage éclairant, je vous laisse découvrir ça dans les livres, mais il y a à la fois de ce qui relève de la bureaucratie, on reproche à Bach, à juste titre, puisqu'il a pris l'engagement de respecter les règles, d'avoir fait paraître le livret, de l'avoir imprimé sans avoir le ni l'obstacle des autorités ecclésiastiques ou civiles. On lui reproche aussi, par exemple, en 1739, c'est la quatrième version, de ne pas avoir une nouvelle fois sollicité l'approbation du livret qui est le même que celui de la version numéro 3. Bach répond d'ailleurs qu'il n'en a absolument rien à faire, c'est allé à la limite limite de la grossièreté, qui ne demandera rien, ne sollicitera aucune approbation, que le livret de cette passion a déjà été approuvé. Tout ça est un fardeau, je traduis l'allemand, insupportable. On ne sait pas comment l'histoire se termine. Mais il y a aussi, en plus de ça, et ça a plus d'impact dans le dessin artistique, le fait que les autorités se mêlent de beaucoup de choses, notamment les autorités confessionnelles et civiles, parce que beaucoup de gens récriminent, c'est de la musique d'opéra que l'on entend, mais aussi parce que tout simplement Bach est soumis à des critiques sur le fond de sa musique. Par exemple, la passion selon Saint-Jean est considérée comme à la limite de l'orthodoxie. Pourquoi ? Parce qu'au lieu d'offrir une bonne musique très, très sensuelle d'une certaine façon, presque quiétiste, qui fasse que le croyant, le fidèle, l'auditeur s'apitoie sur les souffrances du Christ dues à ses nombreux péchés, eh bien, Bach, dans le livret, mais aussi dans la musique elle-même, par une puissance dramatique extraordinaire, déploie une œuvre dans laquelle il donne toutes les clés de l'évangile selon saint Jean, c'est-à-dire non pas uniquement la passion, mais le fait que dans la passion se joue la résurrection, et on entend dans l'œuvre elle-même de manière éclatante le fait que cette mort conduit à la résurrection, à la victoire sur la mort, et tout ceci effraie complètement les pasteurs, et donc il a beaucoup de mal, on lui reproche beaucoup de choses, voilà. Malgré tout cela, il continue cette entreprise artistique, et même après un passage à vide, pas très expliqué, sans doute de dépression profonde, pendant 5 années, de 1734 à 1739, la dernière décennie est une décennie éblouissante. Non seulement il continue à faire ce qu'il doit faire, et à travers ça à faire de l'art, mais il crée des œuvres qui n'ont aucun rapport avec tous ses devoirs, du fait de son poste officiel, et c'est pendant cette période-là qu'il crée l'art de la fugue, les variations Goldberg, la troisième partie de la Klavierübung, le deuxième livre du clavecin bien tempéré, l'autographe de Leipzig, enfin, quelque chose qui est une source absolument incroyable, encore aujourd'hui, d'émerveillement. Le contraste donc entre Bach, entravé dans son activité, même s'il continue son dessin artistique, et puis Rubens, qui bénéficie de conditions d'une grande liberté entrepreneuriale et artistique, est absolument extraordinaire. Et on peut s'en étonner parce que si Bach est soumis à des autorités plus ou moins tatillonnes, eh bien, on est du côté de la peinture et de la musique d'ailleurs, partout en Europe ou presque, dans des systèmes de corporations très pesantes, des guildes. Et effectivement, le poids de ces institutions corporatistes et des batailles juridiques qui naissent à cause de ça est énorme. Rubens fait face à la guilde de Saint-Luc à Anvers. C'est très léger. Pourquoi ? Parce que étant peintre officiel des gouvernants, il est exempté de toutes les charges. Bien qu'il soit secrétaire de la guilde, il va être le doyen de la guilde, eh bien, il fait ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il n'a pas à se préoccuper de savoir si les employés sont bien inscrits à la guilde, si les plus grands peintres sont bien des maîtres reçus avec le formalisme de la maîtrise par la guilde. Il n'a pas à payer quoi que ce soit dans les redevances qui sont dues à la guilde de Saint-Luc. Il est donc complètement libre de faire ça, et c'est une grande liberté. Je la compare à la Ménestrandise, on est en France là, ou communauté de Saint-Julien des Ménestrandiers, qui est une vieille institution qui existe dans certaines villes dès le XIIe siècle, que Philippe V, dans la suite des réformes de Philippe le Bel, institue pour l'ensemble du royaume, et qui constitue à dire il y a les musiciens professionnels et les autres n'existent pas. Et pour être musicien professionnel, il faut avoir suivi un cursus de 4 années de formation et passer un examen en période en présence d'un représentant du roi pour avoir la maîtrise. Et les autres, tant pis pour eux. Tant pis pour eux, c'est même dit de manière extrêmement sévère. En cas de contravention, donc les musiciens de rue, ceux qui n'ont pas passé la maîtrise, les instruments des contrevenants seront sur le champ cassés et rompus, sans figure de procès, il n'y a même pas besoin d'aller demander à qui que ce soit de le faire, et ils seront emprisonnés pour le paiement de l'amende. Donc il vaut mieux être dans la maîtrise, dans la Ménestrandise, que ne pas y être. Donc institution très utile, parce que c'est elle qui crée finalement, sur l'ensemble du territoire, les premiers conservatoires. Et effectivement, les visiteurs en France sont absolument étonnés de manière très satisfaisante du niveau des musiciens français à partir du XVe siècle, parce qu'il y a tout ce système de formation. Et c'est ainsi que, par exemple, les couperins maîtres de la Ménestrandise de la Brie vont être repérés par Jacques Champion de Chambonnière et vont arriver à Paris, ce qui est l'envol de la grande dynastie des couperins. Alors, le dispositif est plus ou moins populaire, parce qu'il y a des taxes derrière ça, il y a l'enregistrement, et puis il y a les taxes qui sont à payer tous les trimestres ou tous les ans, mais l'institution est reconnue. Louis XIV nomme comme roi des ménestriers, c'est-à-dire le sommet de l'ensemble de cette hiérarchie de la Ménestrandise, un de ses musiciens les plus aimés, c'est le premier violon de ses 24 violons de roi, de la bande des 24 violons. Mais à ce moment-là, l'efflorescence de la musique, notamment favorisée par le fait d'avoir avec Louis XIII et Louis XIV deux musiciens, danseurs, à la tête du royaume, et qui poussent donc à des initiatives, va faire tout va déraper très très vite. Donc la Ménestrandise va mal réagir face à ça, défendant ses privilèges, elle va accumuler les erreurs. Pour étendre ses ressources, parce que ça commence à faiblir dans la perception, elle décide d'admettre les joueurs de vielle et tous les autres musiciens et battleurs, comme elle dit, des rues, des foires et des sérénades nocturnes, à condition qu'ils payent évidemment. Ce tableau de Georges Latour montre une risque des musiciens entre, on le voit d'un côté, le vielleur de rue, qui n'a pas l'air très très en forme, mais qui n'est pas maître, c'est manifeste, c'est avant la réforme, et puis les autres, donc qui sont oboïstes, violonistes, joueurs de cornemuse, et on y va jusqu'à physiquement s'en prendre à eux. Ils n'ont pas le monopole, ils sont hors du monopole, ils ne devraient pas exister. La Ménestrandise s'en prend surtout à des institutions nouvelles créées par le roi, l'Académie de danse, l'Académie royale de musique. Et elle va dans un procès qui va durer énormément pour obtenir que les membres de ces académies, voulus par le roi, avec un privilège donné par le roi, eh bien, deviennent forcément des maîtres, ne puissent être que des maîtres qui s'acquittent des redevances à la Ménestrandise. Et ceci va être une débauche de frais d'avocat. Et au bout de 10 ans, le Parlement va donner raison, avec l'aide du roi, sans aucun doute, avec l'habileté de Lully, qui a attendu que la première Académie royale de musique fasse faillite pour la récupérer, et récupérer évidemment l'ensemble du patrimoine. Donc le Parlement va décider de donner raison à ces académies. C'est donc une épreuve totale c'est une brèche dans le monopole considérable pour la Ménestrandise. Et puis, ça va plus loin. En 1692, le roi des Ménestriers, toujours le même protégé de Louis XIV, engage une procédure contre les professeurs de clavecin, compositeurs et organistes du roi, qui refusent de se soumettre à la maîtrise et de payer les droits. Et à ce moment-là, les 4 organismes du roi, c'est-à-dire Nivert, Lebec, Boutern et le grand François le Couperin, tout jeune à l'époque, il a juste 23 ans, entrent en scène et se mettent à défendre très vigoureusement leur liberté de se gouverner eux-mêmes, refusant de se soumettre à la servilité de cette bande, écrit François Couperin lui-même, de cette cohue nombreuse de gens ramassés qui se nomment la Ménestrandise, vieilleux, battleurs, farceurs, charlatans, lesquels font même sauter les singes et dans des cercles. Et au bout de 2 ans et demi, le Parlement prend, c'est un coup de tonnerre, un arrêt qui exempte définitivement les compositeurs, les clavecinistes et autres, de l'appartenance à la communauté de Saint-Julien, à Ménestrandise, qui elle-même est déboutée de sa demande et doit même supporter les dépens du procès. Le roi des Ménestriers démissionne, Louis XIV ne nomme pas de successeur, il faudra attendre 1741, je crois, pour que Louis XV nomme un successeur, qui lui-même va se démettre assez vite, et puis Turgot, tout d'un coup, constate que ce système corporatiste sclérosé est à l'agonie, et donc il abolit en 1776 la communauté et proclame la liberté des arts et métiers. On voit qu'on est sur quelque chose qui est considérable de fait. Et 15 ans après, d'ailleurs, l'Assemblée nationale, en 1791, on supprimera tous les droits de corporation artisanale. Alors, l'affaire est bien documentée, notamment parce que François Couperin compose sur le moment, mais ne publie que plus tard, en 1716-1717, dans son second livre de pièces de clavecin, « Les fastes de la grande et ancienne ». Alors, vous avez des X qui sont là pour feindre de craindre, si le nom apparaît trop clairement, toutes les voyelles deviennent des X, de feindre tout d'un coup un procès ou quoi que ce soit, c'est évidemment de l'humour. 4 actes, c'est une petite comédie, dit Couperin lui-même, et donc on voit apparaître tous les vielleux, etc. Et la dernière partie, le 5e acte, c'est la déroute obtenue au Parlement et le désordre total de toute la troupe causé par les ivrognes, les singes et les ours. Voilà, j'espère que cette minute de clavecin était supportable. Ça n'est pas la seule œuvre d'ailleurs, pas uniquement musicale, qui parle de gouvernance, et il y a même plusieurs œuvres musicales qui parlent de la gouvernance de l'entreprise musicale, par exemple les maîtres chanteurs de Wagner, ou Capriccio, ou Ariane Anaxos de Strauss, mais là c'est une œuvre qui, il n'y a pas besoin de savoir lire la musique, il suffit d'entendre, décrit magnifiquement la déroute totale qui est créée par l'arrêt du Parlement de 1695. Alors, savoir quelle est la gouvernance de l'entreprise artistique dans un contexte qui est très judiciaire d'ailleurs. On parle beaucoup de judiciarisation aujourd'hui dans notre société, mais elle était au moins aussi, et c'est vrai d'ailleurs, la démographie des avocats le montre, je ne sais pas si elle est la cause ou la résultante d'ailleurs de cette judiciarisation, j'espère que je ne choque personne dans la salle, mais on voit que, et c'est vrai pendant toute cette période-là et ensuite, le judiciaire, les procès tient une place considérable dans des entreprises artistiques. L'opéra comique, par exemple, créé par Louis XIV, va disparaître dans des procès, va absorber méchamment des institutions qu'il met à terre, etc. Passe son temps dans des procès, encore très récemment d'ailleurs, mais je ne vais pas dire ce que j'en sais. L'entrepreneur individuel, lui, n'est pas freiné par tout cela en général. Et on voit que apparaît notamment dans les ouvrages de musicologie ou tout simplement d'histoire de la musique, que le premier à s'être libéré de tout problème de relations avec des guildes, avec des autorités, etc., donc sans avoir de poste officiel, c'est Beethoven, ce qui n'est pas tout à fait exact d'ailleurs. C'est le premier musicien de génie, nous dit-on ça. On pourrait citer, je ne sais pas, par exemple, Barbara Strozzi au XVIIe siècle, à Venise, complètement libre dans son art comme dans sa vie d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'avec Beethoven, vu l'importance de Beethoven dans l'histoire de la musique, on franchit une étape, et c'est vrai que ça le distingue des trois autres mousquetaires de l'âge classique viennois, c'est-à-dire que ça s'agit de Gluck, de Mozart ou de Haydn, qui ont tous eu, continuellement d'ailleurs, et même après le coup de pied aux fesses de l'archevêque Coloré II, des fonctions officielles. Alors, il n'y a pas que Beethoven, on pourrait citer un autre exemple que je mentionne rapidement, qui est Stravinsky qui sera de plus en plus indépendant et qui mènera très librement son entreprise artistique, mais aussi économique et financière, ça prime parfois pour Stravinsky, en génie de la musique, mais aussi de la communication. Il engrange par exemple les commandes, mais se contrefiche de ce qu'on lui a demandé. Un cas très spectaculaire et magnifique, c'est la commande pour le 50e anniversaire de l'Orchestre symphonique de Boston. On lui commande une grande symphonie populaire pour l'ensemble de l'orchestre. Et il crée la symphonie des psaumes. Il a l'audace de dire que les psaumes en latin sont très populaires, ce qui n'est évidemment pas évident. Et surtout, il élimine la moitié de l'orchestre de la partition. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de violon, il n'y a pas d'alto, il n'y a pas de clarinette, etc. Il n'en fait qu'à sa tête, après avoir évidemment empoché les émoluments. Ce modèle de l'artiste seul, libre entrepreneur, menant sa destinée et son dessein seul, et n'est pas le modèle dominant, ni à l'époque, ni au XXe siècle avec Stravinsky, ni même aujourd'hui. Il en existe, mais il ne faut pas croire que ce soit le modèle dominant. Pour de multiples raisons. D'abord, des raisons matérielles, c'est-à-dire que la relative opulence de Beethoven, Picasso ou Stravinsky, c'est aussi la misère de Schubert ou de Van Gogh, par exemple. Il faut quand même bien vivre. Et le poste officiel permet de vivre. Donc c'est un point important. Mais il y a également le fait que l'institution a du bon, parce que l'institution a du bon, parce qu'elle stimule, pour des raisons économiques, j'ai dit, mais aussi parce qu'elle stimule, elle permet d'avancer soi-même dans la maîtrise de l'institution artistique, du dessin artistique confié à une communauté, et puis souvent, c'est non seulement crucial pour la réception et la transmission de l'œuvre, mais ça peut être même un moteur dans l'élan artistique lui-même. Je prends le cas de deux musiciens avec une configuration, je veux dire, très très différente. Mahler, chef d'orchestre, vient rapidement, très 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 doué, c'est le moins qu'on puisse dire, devient rapidement à la tête, directeur artistique à la tête de grandes institutions à Budapest, l'Opéra de Budapest, à l'Opéra de Hambourg, puis enfin à Vienne. Et pendant 10 ans, à l'Opéra de Vienne, une des toutes premières maisons d'opéra du monde à l'époque comme aujourd'hui, Et après, dernière étape jusqu'à sa mort, pendant 3-4 ans, à New York, à la tête de la Philharmonie de New York, à la tête du Met, ce qui n'est pas complètement rien. Et donc là, il a à gérer une entreprise complexe, surtout à Vienne. Donc ce sont des musiciens qui se prennent tous pour des vedettes, que ce soit le bassoniste du troisième rang ou la cantatrice, qui sont un peu routiniers, ce qui exaspère Mahler aussi. C'est également un poste qui est très en vue, ce qui veut dire aujourd'hui d'ailleurs pas beaucoup moins qu'à l'époque. La presse ne cesse de parler, les critiques ne cessent de parler de ce qui se passe à l'opéra, qu'il s'agisse de rumeurs ou autres. Et puis il y a toute la couche de bureaucratie entre lui, le directeur de l'opéra, puissant en apparence mais pas tant que ça, et puis l'empereur François-Joseph à son déclin. Et toutes ces couches-là sont d'ailleurs aussi peu sympathiques que bureaucratiques, que antisémites aussi, etc. Voilà. Mais c'est dans ce contexte très contraint qu'il va poursuivre un dessin comme chef d'orchestre, comme chef d'institution lyrique, et qu'effectivement, il va révolutionner non seulement la conduite de l'orchestre, et ceci est encore inscrit dans l'art de l'orchestre aujourd'hui, Boulez le disait très bien, mais également la mise en scène, la présentation des œuvres, le répertoire qu'il choisit de mettre en scène, qu'il soit ancien ou contemporain, mais également avec l'aide en particulier du peintre Alfred Roller, il change radicalement la façon dont costumes, décors, scénographie, jeu des acteurs permettent de donner une toute autre vérité. Et ça enchante au moins pendant un certain temps les critiques, et ça devient le modèle qu'il exportera d'ailleurs au Met Opera à New York. Donc même à travers une grande entreprise qui prend toute votre énergie, il y a moyen d'aller loin dans le dessin artistique que l'on a. Et pour Mahler s'ajoute une autre composante. Il est aussi compositeur. Il est compositeur d'été, comme il dit lui-même, parce que c'est dans les espaces qui restent de son activité, les quelques semaines où il est tranquille l'été, les soirées de temps en temps l'hiver, qu'il compose. Il est compositeur d'été lorsque, pendant un été, l'inspiration, la muse arrive, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais de 1900 à 1910, son dernier été, à l'exception d'une année, qui est l'année de tous les désastres, la mort de sa fille, la déclaration d'une diagnostic d'une grande maladie, le départ de Vienne, l'abondance de l'inspiration est spectaculaire. Dans son cabanon au-dessus du lac, là où il passe ses villégiatures, eh bien, toutes les œuvres de la 4e symphonie jusqu'à la 10e symphonie inachevée vont sortir, des œuvres absolument prodigieuses. Donc, c'est dans l'interstice de son autre activité, du dessin qu'il mène à travers l'activité entrepreneuriale, que se déploie son activité avec le dessein d'être un artiste-compositeur. Et il y a très peu de confusion. C'est-à-dire, quand on compte le nombre de concerts ou de répétitions simplement que Mahler a organisé avec ses propres troupes, que ce soit à Vienne ou à New York, il y a moins de 10 occurrences. C'est-à-dire que les deux activités sont vraiment séparées. Ça ne veut pas dire que dans l'esprit du compositeur et dans son génie, l'une des activités n'entretient pas, ne stimule pas l'autre, mais toujours est-il qu'il n'y a aucune confusion. Ce n'est pas le cas pour Boulez, et je dis ça sans aucun jugement moral. Ça a donné lieu à de magnifiques interventions lors du colloque que tu as organisé, Pierre-Michel, l'année dernière. Ça a donné lieu à des polémiques du vivant de Boulez, et encore plus maintenant d'ailleurs, grâce à l'année Boulez, de gens qui contestent la confusion. Boulez, grand chef d'orchestre, grand compositeur, extraordinaire organisateur de structures et animateur de structures, multiples d'ailleurs, est un homme qui n'est qu'un artiste d'une certaine façon, malgré ses casquettes multiples. Et on le voit par exemple avec une œuvre magnifique, je crois, qu'il compose, il y en a plusieurs d'ailleurs, qu'il compose en utilisant, comme un artiste, d'une part l'institut de recherche qu'il a créé, qui est au tout premier rang mondial, l'institut de recherche en termes de coordination acoustique-musique, c'est-à-dire en fait de création d'outils et de recherche sur le son et sur la façon dont ça peut être utilisé de multiples façons en musique, mais aussi l'ensemble intercontemporain qu'il a créé, comme la Philharmonie de Paris d'ailleurs, qu'on lui doit. Et donc, tout ça est gouverné avec vigueur, parfois avec fureur, il faut le dire, simultanément, dans tous les champs en même temps, mais ça produit de grandes institutions, je viens de les citer notamment, et ça produit de grandes œuvres. Et par exemple, Répond, qui de 80 à 84 est un travail acharné avec les techniciens, notamment avec Andrew Jazzo à l'IRCAM, est une œuvre que Boulez va diriger lui-même avec l'ensemble intercontemporain, que Boulez dirige lui-même aussi, Et je vous propose d'écouter 45 secondes, j'espère que là encore c'est supportable. Un extrait, le début de la deuxième section de Répond. Je passe à un sujet qui est tout à fait proche de celui que je viens d'évoquer, c'est le fait que se créent des entreprises artistiques sui generis. On peut le dire par exemple de l'opéra qui naît dans les cours de Florence, puis de Mantoue, puis à cour de Rome aussi également, mais qui en trois décennies devient une entreprise commerciale avec création de théâtres publics ou privés à Venise, dès 1637, l'année suivante à Londres, partout en Europe après, des troupes itinérantes aussi. Ce sont des audacieux entrepreneurs d'ailleurs, parce que tous ces théâtres vont brûler, tous, il n'y a pas d'exception, tous les théâtres de l'époque brûlent. Et également parce que l'équilibre financier est très difficile à atteindre, mais il y a derrière ça un dessin qui est non seulement entrepreneurial, mais sans doute artistique. Autre entreprise sui generis qui est importante, ce sont les multiples et de plus en plus importantes sociétés de concert. Par exemple, Jacques de Champion de Chambonnière, l'inventeur de Couperin, crée l'Assemblée des honnêtes curieux, qui sont des concerts par abonnement, et on voit se développer ça partout. On voit se développer aussi, par exemple, en Allemagne, les conviviums, qui sont des lieux de banquet où on discute philosophie, où on entend de la musique. Je l'ai déjà dit, à Leipzig, dans le jardin du café de Zimmermann ou dans la grande salle, se développent les concerts du Collegium Musicum et Bach qui crée ou y recrée toutes ces grandes œuvres orchestrales concertantes et ces petits opéras miniatures. Au XIXe siècle, on voit aussi se développer de nouvelles structures créées par les musiciens eux-mêmes. Ainsi, en 1828, à Paris, se crée la Société des concerts du Conservatoire. Quelques années après, à Vienne, en 1842, naît ce que nous appelons la Philharmonie de Vienne. À tort, puisque son nom est les Wiener Philharmoniker, ce qui n'a pas le même sens, ce sont les philharmonistes viennois. Et quelques années après, en 1882, c'est à Berlin que se créent les philharmonistes berlinois, c'est-à-dire la Philharmonie de Berlin. Donc des orchestres parmi les plus prestigieux au monde encore aujourd'hui, créés par les musiciens eux-mêmes, qui s'associent librement et avec une gouvernance qu'ils définissent. Gouvernance assez démocratique, mais très conservatrice à Vienne, puisque les musiciens conservent totalement le pouvoir. Ils élisent un comité et son président, et c'est lui qui décide de tout. C'est pas le chef d'orchestre, c'est lui qui décide de tout, qui choisit les chefs d'orchestre, occasionnels ou non, qui choisit les programmes. À Berlin, évidemment, les choses sont plus teintées d'ambition prussienne. L'Orchestre Philharmonique de Berlin décide, ce sont les musiciens, mais décide de s'en remettre à un chef qu'ils élisent autrefois à vivre, Rotwängler, Karajan, et plus récemment sur un mandat qui est défini dans le temps. Mais on voit là une entreprise artistique dont la gouvernance elle-même est le reflet de l'ambition initiale, c'est-à-dire le fait de décider de s'associer pour créer l'entreprise musicale. Voilà. Je n'aborde pas tous les sujets, évidemment. Je n'ai pas parlé des mécènes. Je ne parle pas des critiques musicaux et de la presse qui parfois vient remplacer les institutions qui étaient autrefois chargées de la censure. Je ne parle pas des marchands, des éditeurs et autres. Mais je voudrais aborder rapidement deux sujets. Le sujet de la rémunération et du partage de la valeur, parce qu'il est crucial. J'ai dit tout à l'heure, d'ailleurs, c'est un sujet qui était très bien traité dans l'entreprise Taylor Swift, et c'est vrai. C'est un sujet qui est plus ou moins facile à traiter, notamment lorsque la puissance publique s'en mêle. Je cite une anecdote. En début du XVe siècle, très peu de temps après qu'il a fini le retable de l'Anneau mystique à Gand, Van Eyck se voit proposer par Philippe le Bon, le grand duc d'Occident, de transformer sa rente annuelle, et c'est irrésistible, en rente perpétuelle, en la triplant, et en permettant à sa veuve, le jour où elle serait veuve, de continuer à en bénéficier. Mais la Cour des comptes à Dijon, des vastes empires et états de Philippe le Bon, refuse. D'ailleurs plus puissante que l'institution que préside aujourd'hui Marie-Amélie de Montchalin. Il faut bien le dire qu'il n'aurait pas le pouvoir de s'opposer à une rémunération. Et le duc d'Occident, qui est sans doute un des plus puissants souverains de l'époque, eh bien, va écrire lui-même à la cour pour lui expliquer que Van Eyck ne va pas rester et qu'il en a besoin. Et donc cette rémunération est absolument essentielle. Et il s'y reprend à trois fois et finit par obtenir un nil obstat mystérieux de la cour. Voilà, Monteverdi, lui, au XVIe siècle, se plaint sans arrêt du fait qu'à Mantoue, comme à Crémone, il est très mal payé. Il est très mal payé, il écrit « En retour de l'honneur que je vous fais en vous offrant le bruit de mes méditations et de mon travail », il a conscience de ce qu'est son art. Et c'est une des raisons pour lesquelles il n'est pas payé régulièrement non plus. On ne lui verse pas ce qu'on lui doit, qui est misérable, dit-il. Et c'est une des raisons qui va le pousser à candidater en vain à la maîtrise de la cour de la chapelle pontificale à Rome, et surtout avec un grand succès à Venise, comme maître de chapelle de Saint-Marc, avec un salaire conséquent versé à bonne date, et avec une liberté de gérer son activité qui est incomparable à celle quasiment d'esclavage qu'il avait à Mantoue. Je n'en dis pas plus de la question de la rémunération, mais on voit bien qu'il y est tout à fait la question de l'attractivité. Si deux grands artistes comme Van Eyck et Monteverdi se décident ou se retiennent de partir, c'est vrai d'ailleurs dans toutes les start-up, ça veut dire que les créateurs eux-mêmes sont quand même attachés, quelle que soit l'importance de leur art, à leur rémunération. Je parle rapidement d'un autre sujet qui est celui des dirigeants, la gestion des successions. Ceux qui s'y intéressent pourront regarder la façon dont se fait l'arrivée de Bach à Leipzig en 1723. C'est le grand mercato des cantors dans cette Allemagne du XVIIIe siècle. Le cantor Kuhnau meurt. Le conseil municipal de Leipzig lance une compétition. Immédiatement, Telemann, qui est à Hambourg, se précipite, joue très fin, fait savoir partout qu'il est sur le point d'être nommé. Du coup, les autorités de Hambourg non seulement acceptent ce qu'elles refusaient jusqu'à présent, qu'il puisse être non seulement cantor, directeur musicien de la ville, mais également patron de l'opéra, et double sa rémunération. Et donc, tout d'un coup, les autorités de Leipzig s'aperçoivent qu'il était sur le point de signer, qu'elles se sont faites berner. Elles relancent la compétition, et deux personnes apparaissent. À ce moment-là, Bach, qui est à Köthen, petite principauté où il est très bien, principauté qui consacre le quart de son budget à la musique, je ne sais pas ce qu'il en est en France, je préfère pas le moment peut-être de demander ça à l'ancienne ministre de la Culture, et également un certain, plutôt talentueux d'ailleurs, Graupner. Et Graupner tient la corde tout de suite. Mais il faut obtenir que le duc de Darmstadt, de Hesse-Darmstadt, lui donne son congé en quelque sorte. On attend des mois, ça ne vient pas. Finalement, il est refusé. Bach passe les auditions, s'en sort pas mal, même la presse de Hambourg dit que c'était très très bon, c'est pas gagné, disons. Et finalement, le conseil municipal, qui est en train de se ridiculiser au vu et au su de toute l'Allemagne institutionnelle, musicale et ecclésiastique, se réunit. On a le procès-verbal, les minutes. Un des conseillers les plus influents dit qu'à défaut d'avoir des gens capables, il vaut mieux prendre un médiocre. Et donc, il faut choisir Bach. Ce qui est un choix que Leipzig ne peut pas complètement regretter. Et ainsi, Bach, qui a bien joué, qui a obtenu à l'avance le congé du duc de Köthen, qui était un de ses amis, en fait, va arriver comme ça à Leipzig. Et c'est un mercato où on voit des conduites qui sont aussi somptueusement habiles que celles des grands footballeurs et de leurs agents. Voilà. Et donc, c'est un médiocre qui va être recruté. Alors, l'entreprise familiale est un cas particulier. Il n'y en a pas tant que ça, en réalité, dans le monde artistique, contrairement à ce que l'on pense. Il y a les quelques ateliers de peinture dans l'Italie du XVe au XVIIIe siècle, l'atelier des Bellini, des Bassano. Il y a aussi l'atelier des Tiepolo, l'atelier des Bruegel, aussi en Flandre. Mais quand on regarde les architectes, il y a quelques dynasties aussi, mais assez peu, et ainsi de suite. Dans les musiciens, il y en a très peu, contrairement à ce qu'on pense, parce que les Bach sont très nombreux, mais parmi les Bach, combien sont géniaux, on dirait peut-être deux, trois, Certains optimistes diraient jusqu'à 4, 5, 6 ou 7, mais toujours est-il qu'aucun succède à l'autre. Donc il n'y a pas de dynastie en réalité. De la même façon, les couperins vont tenir l'orgue de Saint-Gervais-Saint-Protais à Paris, mais ne se succèdent pas beaucoup autrement dans leurs activités à Versailles. Et combien y a-t-il de génies parmi eux ? Deux, Louis et François, personne ne dira qu'il n'y en avait plus que ça. Donc voilà, l'avantage de la succession dans un contexte familial, c'est que on a le temps de l'apprentissage et du choix. Mais par contre, on n'est jamais garanti qu'on trouvera dans le bloc familial, même étendu, l'artiste ou l'entrepreneur qui prendra la suite. C'est pas moins vrai quand vous regardez, je ne sais pas, par exemple, les groupes français de luxe, qui sont tous des groupes familiaux, et c'est intéressant, mais j'en dirai pas plus, surtout devant un micro, de voir comment ils gèrent, plus ou moins bien, on peut le dire peut-être, les questions de succession, et certains feuilletons peuvent commencer d'ailleurs dans les prochains mois à cet égard. Donc, trouver le talent qui soit capable de diriger, de maintenir, de poursuivre le dessin artistique et de le gouverner, n'est évidemment pas du tout évident. Je n'ai pas cité les trois Strauss, rois de la valse, je n'ai pas cité les Mozart, il y a trois générations, mais il y a un seul génie, etc., etc. Je fais quand même une embardée vers le Japon, parce que le théâtre Kabuki, depuis le XVIIe siècle, est un théâtre où se succèdent des dynasties vivantes depuis le XVIIe pour certaines d'entre elles, donc avec un apprentissage très pesant qui prend une place considérable dans l'existence des jeunes gens à partir de l'âge de 5 ou 4 ans même parfois, en particulier pour les rôles de femmes joués par des hommes, les onagata, qui sont une des perles du théâtre japonais, avec un jeu qui est tout à fait bouleversant. On voit parfois trois générations de la même dynastie jouer trois jeunes filles en train de danser. C'est pas forcément le plus âgé qui est le moins émouvant dans sa gestique, dans sa grâce. Voilà. Donc on a des phénomènes de numérotation, de dynastie qui sont très importantes, parfois d'ouverture par l'adoption à des personnalités hors de la parentèle. Et ce qui rend fascinant cette gouvernance, c'est que elle se compare aisément à celle des entreprises de banditisme, et notamment des entreprises mafieuses, qu'elles soient japonaises comme les Yakuza ou sous d'autres latitudes. Je vous invite d'ailleurs à regarder de ce point de vue-là deux films. Si ça affiche, ça sera encore mieux. Voilà, Le Conte des Chrysanthèmes Tardives de Mizoguchi, c'est une vieillerie, diraient certains, mais magnifique, de 1939. Et puis, très récente, c'est 2025, Le Maître du Kabuki, et avec une scène inaugurale qui dit, plus justement que je viens de le dire, la comparaison, le parallèle que l'on peut avoir entre l'activité dynastique du Kabuki et la mafia bandite. Voilà. Je reviens à ces questions-là en abordant aussi le cas des entreprises publiques en France, et j'arriverai ainsi à la conclusion. Les entreprises publiques en France, par exemple, si on les prend dans le domaine du lyrique, sont sur des structures extrêmement variées, peu importe, il y a des associations, il y a des régies municipales, les deux théâtres nationaux lyriques, l'Opéra de Paris et l'Opéra Comique, sont des établissements publics, industriels et commerciaux, dirigés par un directeur général avec un conseil d'administration. Ils dépendent d'ailleurs de la même direction générale de la création artistique, puisqu'il existe en France une direction générale de la création artistique. Même Goebbels ne se satisfaisait d'une chambre du Reich en musique, ou je sais pas, on pourrait dire que Staline se satisfaisait aussi des organisations professionnelles, mais n'avait pas pensé, et de Zhdanov et autres, et de la Pravda, mais n'avait pas pensé créer pour... parfois jusqu'à l'horreur, gouverner les musiciens, à créer une direction générale de la création artistique, ce qui est quand même une dénomination très, très audacieuse, me semble-t-il. Donc, cette direction générale de la création artistique doit gérer la tutelle avec la direction du budget de ces établissements et faire régner l'ordre, en quelque sorte. Voilà. Mais la centralisation en France de toutes les décisions, même celles que l'on ne voit pas à l'œil nu ou au microscope, s'agissant de la culture, en termes de nomination, mais aussi en termes de stratégie, la centralisation plus haut niveau de l'État fait que cette direction générale a du mal à exister, à savoir à quoi elle sert, si ce n'est à se préoccuper avec la direction du budget, de dépenser l'argent, les enveloppes qu'elle en a, mais sans avoir tout à fait les moyens d'aller faire valider des stratégies ou d'aller faire valider des priorités, ce qui serait très utile en période de vaches maigres budgétaires. Dans le domaine des nominations, puisque c'est ça dont il s'agit, là aussi, ces nominations sont faites au plus haut sommet de l'État. Le président et le directeur de l'Opéra de Paris, comme de l'Opéra Comique, sont des décisions. La décision est prise par le président de la République en conseil, par décret en Conseil des ministres. Je me demande s'il n'a pas mieux à faire, mais enfin, toujours est-il que c'est l'État du droit. Et donc, les administrations sentent que ça va se décider ailleurs. Voilà ce qu'il en est. Alors, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui se passe dans une autre direction générale, un autre monde qui est aussi au sein du même ministère de la Culture, qui est celui des musées et du patrimoine, c'est la direction générale des patrimoines. Et contrairement à ce qui se passe dans le spectacle vivant, où prévaut plutôt la séparation des fonctions de présidence et direction générale, dans le monde des musées, elles sont souvent confondues. Et là, on est au cœur d'un sujet important pour l'artistique lui-même, qui est de savoir comment on pilote des institutions artistiques, surtout avec des risques financiers, de réputation et autres, de fréquentation par exemple, voilà. Est-ce qu'on la pilote mieux avec deux têtes, la diarchie, ou est-ce qu'on la pilote mieux avec une seule tête ? Est-ce qu'en période de crise, et je ne fais pas du tout allusion à une actualité récente, parce que si je devais prendre parole, ce que je ne ferais pas, sur Laurence Descartes à la tête du Louvre, je serais très louangeur sur son activité, y compris dans la période récente. Mais la direction générale des musées considère, il y a sans doute un peu de corporatisme, que c'est mieux de confier à un conservateur le soin de tout piloter lui-même. Il est président directeur général. Ça veut dire d'être aussi un très bon entrepreneur, y compris en période de crise. Ce n'est pas une question secondaire, savoir comment est-ce qu'on arrive à comment la gouvernance est-elle la plus heureuse ? Il n'y a pas de règle, évidemment, de ce point de vue-là. On peut avoir des hiérarchies désastreuses, multiples exemples existent. Regardez les dernières successions à Engie, par exemple. On peut avoir aussi un monarchisme qui conduit, avec une seule personne chargée de tout, qui conduit aussi au désastre. Donc, il n'y a pas de bonne façon de faire. Il y a peut-être quand même un point, je le tire de mon expérience, si je peux dire ça, qui est que la diarchie permet d'avoir un dialogue, notamment dans des situations extrêmement critiques, à condition que quelqu'un se sente l'autorité et le devoir d'aller vérifier que les deux parties de la diarchie, par exemple le président et le directeur général, la directrice générale, coïncident suffisamment, c'est-à-dire arrivent à se synchroniser, savent se parler, savent surmonter des désaccords ou des différends en partageant le même dessin artistique. Et ceci n'existe pas dans l'appareil d'État, il faut bien le dire, voilà. Qui dirige et comment, c'est donc une question qui reste ouverte, en particulier dans le cas des entreprises publiques en France aujourd'hui. De cela, enfin, tout cela découle notamment du choix des dirigeants eux-mêmes et de la vérification de leur capacité à diriger seul ou à diriger avec quelqu'un d'autre avec lequel ils peuvent s'entendre. Et ce travail n'est pas fait, il faut bien le dire. Voilà. Dans le monde de l'entreprise, d'ailleurs, le code AFEP-MEDEF clairement préconise plutôt la séparation des fonctions et dans le système du comply or explain, comme on dit en français, tout ça vient du monde anglo-saxon, l'entreprise qui ne se conforme pas à cette règle de séparation doit expliquer pourquoi elle ne la respecte pas. Voilà. Alors, tout ça est important et j'en arrive à quelques conclusions. La première, c'est que pour conduire une entreprise artistique, le grand chef d'orchestre, le grand peintre, a besoin de conditions tout de même pour que ça marche. Ce n'est pas une question de rentabilité, il faut quand même que l'entreprise soit soutenable durablement, qu'elle ne fasse pas faillite tous les 3 mois, mais c'est une question de savoir si elle est suffisamment la tête hors de l'eau et prenant en compte tout ce qu'elle doit prendre en compte pour que le dessin artistique soit poursuivi. Et est-ce que, je reviens rapidement sur ça, est-ce qu'un grand chef d'orchestre est forcément la meilleure personne pour diriger seul une grande entreprise artistique, ou un grand peintre, ou un grand metteur en scène, plutôt que d'être soumis au dialogue qui peut être rugueux avec une autre personne, mais ne pas être seul à décider de tout. Voilà. L'œuvre d'art naît du génie, de l'inspiration, c'est pas moi qui l'ai écrit, mais je vais pas dire qui l'a écrit, du sens du moment et parfois de la chance. Et tous ces éléments sont le génie, l'inspiration, le sens du moment, parfois de la chance, tout ça me semble être important. C'est très différent d'un domaine à l'autre, je veux dire, l'œuvre picturale, une fois que la toile est peinte, elle existe. L'œuvre musicale, c'est un peu moins évident, une fois que la partition est achevée, bien sûr, les gens qui savent la lire peuvent la lire, peuvent l'entendre mentalement, mais tant que le son lui-même n'a pas retenti, est-ce que le dessin artistique est accompli ? Ce n'est pas évident. Je pourrais prendre d'autres exemples dans la chorégraphie ou autre, etc. Donc la mise en soi de la partition n'est pas forcément l'achèvement, la perfection de la création musicale. La composition est d'ailleurs la composition musicale est plus souvent un exercice solitaire. Et si je prends trois parmi les plus grands, ou peut-être les plus grands d'ailleurs, compositeurs d'opéra d'aujourd'hui, Francesco Filidei file en Sardaigne dans des endroits complètement perdus au milieu des troupeaux de chèvres et de brebis pour composer. Pascal du Sapin se retire tous les matins dans son atelier à Nouvelle-Athènes, à 3 et quelques kilomètres au nord de cet amphithéâtre, et pour y composer seul. Et si j'en prends un troisième, George Benjamin, le plus grand compositeur britannique, disparaît, se retire, on ne sait jamais vraiment bien où, pendant des mois parfois, pour seul créer sa partition. Voilà. Mais ces partitions, tant qu'elles n'ont pas retenti, ne sont, je le répète, pas l'achèvement, l'accomplissement du dessin. Donc par conséquent, il faut, par exemple, que l'opéra de Covent Garden à Londres, ou que, je ne sais pas, l'opéra comique, la Scala de Milan, se saisissent dans une organisation bien plus complexe et bien plus nombreuse, des dizaines, des centaines de personnes, techniciens, instrumentistes, chanteurs, etc., communicants, pour que l'œuvre soit complètement accomplie. C'est pas tout à fait la même chose dans le cas de la peinture. Ce qui veut dire que la gouvernance de chacun des secteurs est quand même assez différente, et que le génie créateur, dans ce qui nous permet d'être saisi, bouleversé, passe par des entreprises qui sont quand même parfois assez radicalement différentes. Il n'y a que des cas, je répète cette phrase qui m'a impressionné dans la bouche de Thomas Paris, c'est tout à fait exact, mais voilà. Est-ce que l'entrepreneur musicien ou peintre peut être un bon entrepreneur? Il y a des cas, Rubens, on l'a vu, Boulez aussi, Lully évidemment, mais je me souviens aussi, moi, vous allez se demander pourquoi je parle de ça, j'arrive à la conclusion, ne vous en faites pas, participant à des négociations compliquées au moment de l'arrivée de l'iPhone en France, et en Europe d'ailleurs, au siège de Apple, avec Steve Jobs autour de la table, il était clair qu'on avait là quelqu'un de génial, absolument, qu'il avait un dessin très fort, économique, mais surtout technologique et sociétal. Il voyait très loin dans ce qu'allait devenir cet objet, mais que rien n'existait sans la présence à ses côtés de celui qui lui a succédé, d'ailleurs, qui était le financier à l'époque, qui était Tim Cook. C'est-à-dire que même à ce niveau, je ne suis pas dans les arts, mais ça se compare assez facilement, de génie, je crois qu'on peut le dire, on ne peut pas tout apprécier, etc., bien sûr, on peut dire que c'est le début de la fin dans la société, que l'arrivée de l'iPhone, bien sûr. Mais s'il n'y a pas quelqu'un d'autre à côté, qui était là en l'occurrence Tim Cook, rien ne se réalise finalement. Voilà, je termine tout à fait, Pierre-Michel, en revenant à un cas que vous nous rappelez, ou que tu nous rappelles de temps en temps de manière très juste, qui est très éclairant d'ailleurs, c'est celui de Van Gogh. Et le génie de Van Gogh, un ton incontestable en ces années 20 du XXIe siècle, mais pour ainsi dire inconnu à sa mort, n'est devenu manifeste que grâce à l'action industrieuse multiple, très efficacement conduite par sa belle-sœur, Johanna Van Gogh, qui, à la mort de son beau-frère, va rassembler toutes les œuvres et tous les documents avec toutes ses œuvres et va les gérer. Et c'est ainsi que, par l'entreprise de Johanna Van Gogh, d'une certaine façon, la mort de ce peintre qui aurait pu disparaître, ou presque, est conjurée, si je peux utiliser ce terme, grâce à l'entrepreneuse qu'elle était, la mort de Van Gogh, de ce génie, et la disparition presque certaine de ses œuvres est conjurée, et cette œuvre est toujours vivante et continue à nous éblouir. Voilà une entreprise non formalisée, mais bien gouvernée. Merci beaucoup de votre attention.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.